Bonjour à tous, c'est Maxence Rigottier de blogcourseap.com. Aujourd'hui, je suis avec Frédéric Brossard qui est l'auteur du livre Barefoot et minimalisme, courir naturel. Donc je vais laisser un petit peu Frédéric se présenter, nous présenter son livre, mais surtout nous expliquer un petit peu sa pratique de courir avec des chaussures minimalistes, les avantages, les inconvénients. J'ai différentes questions à lui poser, mais je vais laisser tout d'abord Frédéric se présenter et ensuite je vais lui poser mes différentes questions. Salut Frédéric.
Bonsoir Maxence et bonsoir ou bonjour à tous et à toutes. Donc je m'appelle Frédéric Brossard. Je suis chroniqueur sur le site runners.fr où je m'occupe des rubriques minimalisme et test produits. Et puis, comme Maxence l'a dit, je suis le co-auteur, puisque je l'écris avec Daniel Dubois, le co-auteur du livre Barefoot, minimalisme, courir naturel, paru aux éditions Amphora en juin 2012.
D'accord. Pourquoi as-tu commencé à pratiquer le barefoot ou de courir avec des chaussures minimalistes? Qu'est-ce qui t'a poussé à tenter cette aventure?
Alors, en fait, c'est la conjonction de deux choses. La première, c'est le fait que je fais beaucoup de tests produits et puis que naturellement, quand les chaussures minimalistes sont apparues sur le marché, pas forcément français, mais quand j'en ai entendu parler de ce qui se passait aux États-Unis, j'ai voulu tester. Et puis, autre facteur, mon coach de club trouvait que j'avais une foulée franchement très lourde sur le talon, malgré mon poids plume, puisque je fais 1m84 et 65 kilos.
D'accord, c'est très mince.
Et pas beaucoup pour quelqu'un de ma taille. Et ben malgré ce poids, mon coach de club me faisait beaucoup de réflexions sur le fait que j'avais une foulée extrêmement lourde sur le talon. Et alors, ma découverte du minimalisme qui a induit un changement de foulée m'a paradoxalement ou heureusement a complètement modifié ses attitudes de course à pied et pour mon bien.
D'accord. Et au départ, explique-nous un petit peu comment tu as entrepéri. Tu as couru une ou deux minutes, ensuite tu as augmenté progressivement. Comment ça s'est passé pour tes débuts?
Ça s'est passé très mal en fait, puisque ce que j'ai écrit dans le bouquin, c'est un petit peu, enfin, quand je parle de progressivité et qu'avec Daniel on insiste beaucoup sur la progressivité, c'est un petit peu au regard de mon expérience personnelle et de celle que d'autres ont vécue, c'est-à-dire que quand on change de foulée, donc on modifie sa biomécanique, on modifie les attitudes de son corps, on modifie les réactions des muscles, des tendons, des ligaments. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait habituellement, on le fait différemment. Et bien évidemment, quand on va trop vite, on laisse pas au corps le temps de s'habituer. Et donc moi, c'est un peu ce qui m'est arrivé, puisque j'ai d'abord commencé avec des chaussures de type Newton, donc ça c'est semi-minimaliste.
D'accord.
Et puis après, passer directement au Vibram Five Fingers et puis avec l'idée de faire un marathon en Vibram Five Fingers au bout de 3 mois d'entraînement. Donc ça veut dire que concrètement j'ai fait 800 km en Vibram Five Fingers sans phase de transition parce que ça me semblait facile et puis je me suis cassé le pied, donc une fracture de fatigue du pied juste avant de faire le marathon. Voilà. Donc c'est pour ça que dans le livre, on insiste sur le mot progressivité qu'on écrit, je ne sais plus combien de fois, je n'ai pas compté, mais un certain nombre de fois.
D'accord, donc toi, par rapport à ton expérience personnelle, tu t'es vite rendu compte qu'au bout de 3 mois, même si on continuait d'avoir les mêmes entraînements que par le passé, eh bien malheureusement, ça l'a entraîné une blessure.
Oui, tout à fait. Moi, j'insiste sur le fait que le corps humain, il est capable de faire énormément de choses, mais par contre, il faut lui laisser le temps d'apprendre et de s'habituer. Donc, le fait de courir sur le talon avec un déroulé du pied, ça induit un certain nombre de les muscles, les tendons ont des courses d'une certaine façon. Et puis après, si tu cours sur le médio-pied ou même l'avant du pied, tu modifies les charges, les forces qui s'exercent. Et tes muscles, ton corps, ton squelette n'ont pas été habitués à ces nouvelles forces. Il et elle sont capables de résister à un certain nombre de choses, mais pas à ces nouvelles choses que tu lui imposes. Sauf si tu lui laisses le temps, c'est-à-dire si tu construis progressivement sa réaction face à cette nouvelle façon de courir.
D'accord. Et moi, j'avais parlé un petit peu avec différents podologues. Ils me disaient que souvent, il faut une année de transition. Tu confirmes entre
Oui,
un
c'est-à-dire que
entraînement
ouais.
avant avec des paires de running classiques et puis ensuite bah, avec des chaussures minimalistes, on compte une année de transition bah, pour refaire les mêmes entraînements que l'on faisait par le passé.
Un peu ça, je dirais, il faut entre 3 et 6 mois pour bah, pour passer des chaussures non minimalistes aux chaussures minimalistes, mais ensuite effectivement, il faut durant cette phase, il est pas tellement recommandé de s'entraîner pour des compétitions d'importance. Et puis après, bah, il faut se donner encore quelques mois pour reprendre un entraînement consistant, bah, classique. Donc je dirais oui, effectivement, une petite année, ça permet de transformer sa foulée et de redevenir aussi performant, voire plus performant qu'avant.
D'accord. Et avec cette blessure au pied là, que tu t'es fait une fracture de fatigue du pied, ça t'a pas repoussé qu'est-ce qui t'a motivé pour continuer dans cette démarche?
Ça m'a d'autant moins repoussé que donc j'ai été plâtré et cette semaine, après avoir été déplâtré, je courais marathon de Paris en chaussures minimalistes, hein, donc ça m'a pas du tout, ça m'a pas du tout freiné. En fait, moi j'ai souhaité conserver tous les bénéfices de la course à pied minimaliste. Hein, entre guillemets, j'aime pas le mot minimaliste. Hein. C'est un mot qui est très mal choisi en fait. Moi, je dirais plutôt voilà, une foulée naturelle, une foulée sur le médio-pied. Donc parce qu'en fait, il y a quand même, j'avais le corps humain, il est conçu pour ça, il n'est pas conçu pour atterrir sur le talon. Quand on regarde comment est fait le talon, on se rend bien compte qu'on ne peut pas courir sur le talon. C'est pas naturel, alors que l'avant, le médio-pied, lui, il est conçu pour courir. Je dirais, tout le pied est conçu pour ça. Et en fait, quand tu cours comme ça, tu retrouves vraiment des attitudes naturelles. Et puis surtout, tu as un sentiment de légèreté que tu n'as pas du tout, dans la course à pied, entre guillemets, classique sur le talon.
D'accord. Et comment bah, tu peux expliquer que pendant des décennies, toujours on nous vend bah, des différentes chaussures avec des gros amortis, etc.
En fait, ce qui s'est passé au début lorsque le jogging s'est généralisé il y a une trentaine, une quarantaine d'années, en fait, les équipementiers du sport ont conçu des chaussures qui, sur la base de la marche à pied, on dit bah, pour courir, c'est comme marcher. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas eu d'études biomécaniques sur la façon dont les gens couraient ou devaient courir. Et donc, ils ont dit bah, courir, finalement, on pose le talon, enfin, comme quand on marche, quoi, on pose le talon et puis on déroule le pied. Et vous avez dit, bah oui, mais si, tiens, si on pose le talon, on va se faire mal, donc on va mettre de l'amorti sous le talon. Et puis voilà, c'est de là qu'est née c'est de là que sont nées ces chaussures qui finalement rendent la course bah, accessible à tout le monde, mais qui biomécaniquement n'ont pas vraiment de raison d'être, quoi.
D'accord. Et ensuite, c'est aux États-Unis que petit à petit, on s'est aperçu que bah, finalement, courir avec des chaussures minimalistes ou courir pieds nus, c'était pas forcément si mal que ça.
Oui, tout à fait, oui. C'est, ben, je dirais, il y a eu quelques pionniers, évidemment, mais c'est surtout en 2009, avec les études de Daniel Lieberman, qui est professeur de biomécanique à Harvard, hein, qui a montré qu'effectivement, la foulée sur le médio-pied, entre guillemets, hein, foulée barefoot ou minimaliste, était potentiellement beaucoup moins traumatisante qu'une foulée sur le talon, même amortie. Et bon, donc Lieberman avait une approche purement scientifique. Mais autour de Lieberman, bah, ils sont venus se greffer le succès du livre Born to Run de Christopher McDougall, et puis de plus en plus de témoignages de coureurs qui avaient fait cette transition minimaliste et qui s'en portaient beaucoup mieux. Alors, avec une approche qui était aux États-Unis, bah, c'est les États-Unis, hein, c'est toujours entre guillemets sectaire, c'est-à-dire c'est oui ou c'est non, quoi, c'est blanc ou noir, c'est jamais juste milieu.
Exactement.
On dit bah voilà, le minimalisme c'est génial, ça résout toutes les blessures. Hein. Alors c'est un peu, c'est le postulat de départ, je trouve, bon, il est pas bon quoi, de prétendre sans études scientifiques à l'appui que ça supprime toutes les blessures, c'est pas forcément la bonne approche. Bon, c'est pas ce qu'avait dit Lieberman, mais bon, j'ai resté parti un petit peu sur ce malentendu quelque part, voilà.
D'accord. Et bah, tout de suite, toi, quels ont été les avantages de cette pratique? Tu as ressenti donc plus ta foulée, des meilleures sensations quand tu courais. Quels ont été les différents avantages que tu t'es aperçu avec cette nouvelle pratique?
Bah, plus grande légèreté de la foulée, plus grande efficacité, des performances supérieures à ce que je faisais avant avec ma foulée entre guillemets lourde sur le talon.
Donc tu as amélioré tes différents chronos personnels.
Clairement, mais oui,
Ah,
clairement.
parfait.
Ouais. Et puis plus de liberté, et puis plus de contact en fait avec le sol, avec plus de ressenti dans la façon de courir.
D'accord. Et également, bah, quels ont été les inconvénients à faire plus attention et plus se concentrer à sa foulée? On peut pas courir un petit peu n'importe où.
Oui, alors je dirais les inconvénients majeurs, c'est dans la phase de transition, parce que quelque part c'est un petit peu frustrant, quoi, de dire bon, il faut recommencer à courir, il faut apprendre. Ouais, c'est pas une phase qui est passionnante. Alors moi je l'ai abrégé à mes dépens, hein, mais bon, pas une phase qui est super passionnante, hein, entre guillemets. Hein. Puis après, c'est vrai que par contre, quand on court sur route, fondamentalement, il n'y a pas d'inconvénient. Quand on veut commencer à courir sur les sentiers ou en trail, c'est vrai que ça nécessite quand même une vigilance beaucoup plus importante, hein, clairement.
D'accord. Et bah, pour toutes les personnes qui souhaiteraient courir avec des chaussures minimalistes, quels sont les différents conseils que tu pourrais leur donner?
Ah, ça c'est toujours un peu compliqué. Bon, il y a le mot progressivité, hein, que j'ai déjà employé tout à l'heure et qui revient à toutes les pages du bouquin qu'on a écrit là. Après, je dirais il y a deux approches, enfin il y a plusieurs approches possibles pour bien démarrer le minimalisme, hein, tout en conservant cette idée de progressivité dans la tête, hein. La première approche, c'est de dire, bah, c'est de courir carrément aux pieds nus. Parce que c'est là où effectivement on va avoir le meilleur ressenti, où le corps va le mieux s'habituer à cette nouvelle foulée, il y aura bien le feedback nerveux, etc., etc. Bon, ça c'est une approche que préconisent les gourous américains. C'est vrai que moi je la juge quand même difficilement applicable. Mon co-auteur Daniel, lui, c'est un vrai barfooter, hein. Moi je suis plutôt un coureur entre guillemets minimaliste. Donc ça c'est une première approche. La deuxième
D'accord.
approche, c'est de prendre des chaussures dites de transition. Qui force la foulée un petit peu mécaniquement. Donc on a par exemple les Skechers Go Run ou la gamme Pure de Brooks, donc qui ont un dispositif dans la semelle qui oblige à courir sur le médio pied. Donc ça c'est une méthode assez efficace, mais très mécanique. Et puis après, bah, il y a l'idée de dire, bah, on prend des chaussures où on va réduire le drop, donc la hauteur, la différence de hauteur entre le talon et la pointe, les orteils. Donc on va progressivement diminuer le drop de ses chaussures tout en continuant à s'entraîner normalement. Donc c'est trois approches possibles. Moi personnellement, je sais que ça fait hurler beaucoup de gens, hein. Moi j'aime bien l'approche mécanique, parce que bah, c'est la plus facile entre guillemets, et puis c'est celle qui donne sans doute le meilleur résultat.
D'accord. Et également, pourquoi cette pratique bah, se développe en France de plus en plus? T'as une réponse à cela? Juste parce que aux États-Unis, ça s'est extrêmement développé, du coup, vu que la France a 4-5 ans de retard, on suit le chemin.
Ouais, alors il y a l'effet un petit peu mode, hein, mais je pense que le bon il y a plusieurs effets. Bon, il y a l'effet mode, hein, ça c'est clair. Après, il y a l'effet produit, parce que il y a un an ou deux, il y avait aucun équipementier, grand équipementier, hein, qui avait des produits minimalistes. Aujourd'hui, bon, je dirais même les Japonais, qui ont longtemps été réticents, ont des chaussures minimalistes. En ce moment, je suis en train de tester des Mizuno Evo qui vont sortir en janvier. C'est clairement des chaussures ultra minimalistes. Donc il y a une offre produit qui est très importante, hein. Donc l'offre produit, elle suscite aussi la curiosité. Et puis après, je dirais, il y a tous les gens qui en parlent. Donc il y a, bon, je vais commencer par moi, hein. C'est pas très modeste, c'est pas très poli de faire ça. Il y a Daniel, il y a Christian Harbers, qui parle beaucoup de son expérience de coureur pieds nus. Il y a tous les petits reportages qui sont passés à la télé sur cette tendance. Il y a des magasins qui jouent le jeu, qui sont intéressés. Il y a des magasins minimalistes qui ouvrent. Je dirais, il y a tout un ensemble de gens, entre guillemets, des pionniers, de gens qui y croient et qui en parlent beaucoup et qui font partager leurs expériences. Et tout ça contribue un petit peu à une prise de conscience dans le monde des coureurs qu'il y a quelque chose qui existe, quoi, en dehors de la classique chaussure amortie, et que peut-être ça vaut le coup d'être essayé.
Et concernant le tarif des différentes chaussures minimalistes, est-ce que c'est plus cher, moins cher qu'une paire de running classique? C'est à peu
Ah,
près quoi
malheureusement,
la tendance et la fourchette de prix?
Bon, ça c'est la mauvaise question, ça. Parce que les gens pensent que minimaliste, ça peut vouloir dire pas cher. Ben non, parce que en fait, les chaussures minimalistes, elles sont conçues par les mêmes ingénieurs, dans les mêmes bureaux d'études, et elles ont globalement le même prix. Alors, on va commencer à avoir les Skechers qui sont les moins chers, aux alentours de 80 €, et puis ça va monter jusqu'à 130, 100, 140 € pour certains modèles. Sur les modèles vraiment très minimalistes de route, on va se situer aux alentours des 100 €. Et puis après, pour des modèles un peu plus évolués, surtout entre elles, là, ça va être un peu plus cher, quoi.
D'accord, donc à acheter en solde si votre budget est un petit peu serré pour
Et
réduire le prix
malheureusement, il y a...
au maximum.
Ouais, y a pas de miracle, hein. C'est pas parce que c'est minimaliste que c'est pas cher.
D'accord, exactement. Et concernant donc les blessures, on en a un petit peu évoqué tout à l'heure, permet donc de réduire logiquement la blessure du coureur. Mais est-ce que ça entraîne pas justement des autres blessures que l'on n'a pas avec une paire de running classiques?
Ah ça, c'est une excellente question à laquelle je n'ai malheureusement pas de réponse pour l'instant parce que l'expérience, si tu veux, y a pas, il faudrait un gros retour d'expérience, un nombre de coureurs conséquent et puis d'analyser les pathologies qu'ils ont en tant que coureurs minimalistes. Effectivement, ça réduit un certain nombre de pathologies hein, comme la tendinite du tendon d'Achille, le TFL, etc. Mais est-ce que dans 5 ans on va pas s'apercevoir que ça crée des choses qu'on ne connaît pas aujourd'hui? Rien n'est moins sûr. Hein. Bon,
D'accord.
j'exclus la fracture de fatigue hein, parce que ça c'est dû à une transition trop rapide. Mais je dirais des pathologies de type tendinite par exemple, est-ce qu'on va pas en causer à d'autres endroits que sur le tendon d'Achille ou fascia latin? Je sais pas dire.
D'accord. Donc, ouais, pour le moment, vu que c'est tout nouveau, on n'a pas assez de recul et d'expérience pour savoir si dans le futur, ça peut entraîner des soucis. Que ça
Oui,
entraînait pas avec une paire de running classiques.
bah, de toute façon, il faut bien voir que courir, c'est bon. Même si l'homme est fait pour courir, comme dit Christopher McDougall, il est pas fait forcément pour courir des marathons, des ultras, des 10 km à fond.
C'est
Hein.
vrai.
À partir du moment où tu sollicites ton corps pour des choses qui
Ils
bon,
sont
sont
hors du commun dans le sens,
hors du
c'est hors
commun,
de la
même.
norme, quoi. C'est pas tous les
Voilà,
jours,
même courir
quoi.
un 10 km en 50 minutes pour quelqu'un qui dans la semaine fait que de la marche et assis à son bureau, je veux dire, c'est déjà quelque chose d'exceptionnel pour le corps, au sens que le corps est soumis à des sollicitations auxquelles il n'est pas habitué en dehors de cette course. Donc bah, tout ça, potentiellement, c'est traumatisant, quelle que soit la façon dont tu cours. Hein.
D'accord, ouais, Mais également concernant tes différents entraînements, est-ce que tu peux nous évoquer une semaine type de tes entraînements en tant que coureur minimaliste?
Oh ben, ils vont pas être très originaux parce que je pense que c'est les mêmes que ceux des coureurs standards. Hein. Moi, le lundi, c'est du sprint court ou de la séance en côte, hein, où je varie les distances, hein, soit du sprint très court, 100 mètres, 200 mètres, et pareil pour les côtes, soit du un peu plus long, hein, 400, 600, idem en côte. Après, je vais faire une séance d'allure où je vais travailler 3 allures, donc une allure de footing rapide, une allure marathon, une allure 10 km, donc sur des sessions entre 20 et 30 minutes. Une petite séance de récup qu'en général je fais en sous-bois.
D'accord.
Bah, j'aime bien. Et puis après, une sortie longue avec du travail d'allure. Et puis si j'ai le temps, je fais une cinquième sortie. Bon, un petit peu plaisir, quoi. Voilà.
D'accord. Donc tu t'organises 5 sorties par semaine dans ton planning.
Voilà, à peu près, ouais.
Ok. T'as raison, hein. Autant en profiter au maximum et puis prendre du bon temps en courant.
Ouais, mais moi je suis très scientifique dans mon approche. Hein. Mes séances, elles sont toujours à base de pourcentage de vitesse et de pourcentage de cardio. Hein, donc,
Et donc tu as un cardio-fréquence-mètre où tu analyses toutes tes données de tes résultats et de ton corps.
Oui, j'ai l'œil rivé à mon GPS surtout. Moi, je surveille ma vitesse en fait.
Ok, d'accord. Et tu arrives à tenir à chaque fois tes différents entraînements en les ciblant quasiment exactement comme tu dois le faire.
Ouais, tout à fait. Bah, c'est le but que je me fixe, en fait. C'est l'objectif que je me fixe.
Ok, ça c'est parfait. Hein, t'automatises ton travail quoi, en courant. Et pour finir sur une dernière question, donc pour toutes les personnes qui ont déjà entendu parler de ton livre? Est-ce que bah, tu peux un petit peu le présenter si bah, des gens souhaiteraient l'acquérir et qui se demandent un petit peu bah, qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc je rappelle que j'avais effectué la chronique de ton livre bah, sur le blog, hein, je mettrai le lien, mais je vais laisser bah, Frédéric nous expliquer un petit peu la plus-value de ton bouquin.
Alors déjà, c'est le premier bouquin de ce type en français, ce qui est déjà sa grosse plus-value. Et puis avec Daniel, ce qu'on a essayé de faire, c'est qu'on a essayé d'être très très simple et très très pratique. Donc en fait, dans toute une première partie, bon, on va rappeler rapidement l'historique, hein, du mouvement minimaliste. Ensuite, Daniel, lui, va expliquer un petit peu le corps humain, comment il est fait, les différents types de foulées, leurs impacts sur le corps, etc. Donc ça, c'est toute une partie entre guillemets scientifique, hein, qui est le domaine de Daniel. Après, on va donner quelques conseils sur, enfin pas quelques conseils, on va expliquer un petit peu ce qu'est la foulée minimaliste et puis quelques petits exercices pour l'acquérir. On va donner un petit peu d'exercices de préparation physique, hein, pour renforcer certains éléments plus sollicités que d'autres. Un plan de progression type. Et puis après, on va parler des limites, parce qu'il faut bien parler des limites. Donc là, c'est là où on va parler un petit peu des risques de blessure quand on va trop vite. Et puis des limites bah, face au temps, face aux conditions météo, face aux distances, etc. Et puis un dernier petit chapitre où on présente un peu le matériel, les différents types de chaussures disponibles pour pratiquer la course à pied minimaliste.
D'accord, donc comme ça on a une panoplie bah, de tout ce qu'il faut faire pour pratiquer le barefoot et minimaliste
On
sans
a
avoir de soucis.
voilà, on n'a pas voulu faire un bouquin hyper technique sur la foulée. On a plutôt cherché à faire quelque chose de vraiment simple et accessible, hein, que les gens puissent prendre plaisir à lire, qu'ils soient
Ouais, que ça
convaincus.
soit pas trop technique afin bah, de perdre les gens, quoi.
Voilà, exactement. Ouais.
D'accord. Et également, est-ce que tu souhaiterais revenir en arrière ou maintenant c'est sûr, tu recourras jamais de ta vie avec une paire
Et
de
ce qu'il y a surtout,
remises
c'est que j'y
neuves?
arrive pas. Parce qu'en fait,
Ah, maintenant, ouais, c'est.
j'arrive
Tu
plus. Moi, il
n'existes
m'arrive,
plus.
bon, les marques m'envoient des fois des produits à tester. Et je commence à courir avec et je me rends compte que j'arrive pas à courir parce que la chaussure, le talon est trop haut par rapport aux orteils. Et puis, j'arrive pas à. Bah, quand je pose l'avant de mon pied, bah, le talon se pose alors que je veux pas. Et puis, la chaussure est pas assez flexible, je suis pas bien dedans, quoi. Elle est trop serrée pour mon pied. Enfin, bon, j'arrive pas, quoi. Donc, je peux plus revenir en arrière, en fait.
D'accord, maintenant tu vas être condamné entre guillemets à
Là, je suis
courir
condamné, là.
avec des chaussures à minimaliste.
C'est clair.
Ok, bah en tout cas merci pour avoir accepté cette interview.
Ben,
Merci
de
pour
rien.
avoir donné un petit peu ton point de vue par rapport à cette thématique qui augmente petit à petit en France, un nouveau phénomène qui va sans doute s'accroître au fil des mois et des années à venir. Je pense que tu seras dans quelques années avec de plus en plus de coureurs qui auront essayé bah, cette pratique.
Oui, je pense aussi, oui.
Ok. En tout cas, pour ma part, je te dis à bientôt et bah merci une nouvelle fois.
De rien, c'était un plaisir.
À bientôt.
À bientôt.
J'espère que cette interview vous a plu. Partagez-la sur Facebook, sur Twitter et également dites-moi dans les commentaires du blog ce que vous avez pensé de l'interview. Pour ma part, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos de course à pied, des entraînements de course à pied, des chroniques de livres, plein d'autres choses. Donc, c'était Maxence Rigottier de blogcourseapied.com. À bientôt!